Je tiens vraiment à témoigner de ce que je vis, de ce que nous vivons avec Milvia, à travers la situation dans laquelle je suis. J'ai demandé au pasteur de pouvoir témoigner parce que je sens cet appel de témoigner devant vous, car malheureusement mes jours sont comptés, mes mois sont comptés, mon temps est limité. Et je crois que c'est bon de glorifier Dieu en témoignant, simplement en train de dire tout ce que nous vivons, et de dire aussi que Dieu est là, malgré tout ce que je vis. Et j'allais dire encore plus dans ce que je vis. C'est assez émouvant de parler de ces choses-là, c'est assez dur aussi de les avoir formulées et de pouvoir les dire devant vous, mais je suis conscient qu'à travers ce que je vis, Dieu a un message pour tout le monde. Chacun d'entre nous, on a une vie et on a un message que Dieu a envie de transmettre à chacun. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je réponds à l'appel de Dieu qui m'a dit, qui me demande simplement de témoigner de ce que je vis. Et c'est ce que je vais faire. Il va être en trois points. On va essayer de revenir. Je vais revenir en 2018, au début août, et même fin juillet, quand je suis parti en vacances chez ma maman. Et que là, elle m'a dit, écoute, t'es bien gentil, mais t'es tout jaune. Il y a quelque chose qui va pas dans ta, il y a quelque chose qui va pas dans ton corps. Je vais téléphoner à mon médecin et on verra ce qu'il en est. Et c'est ce qu'elle a fait, séance tenante. Elle a téléphoné à son médecin et à midi, nous étions chez lui. Et puis il me dit, oula, ça, je ne peux rien faire pour vous, mais par contre, je vous envoie à l'hôpital avec une lettre de recommandation. Donc, séance tenante, nous avons été à l'hôpital et c'était à Bruxelles et puis en Belgique et j'arrive aux urgences et je présente mon papier. Puis tout de suite, on m'a dit, oulala, il y avait au moins 40 personnes dans la salle d'attente et nous sommes passés dans les premiers. Et là, je comprenais que ce qui m'arrivait était grave, mais pas à ce point, parce que je refusais que ma vie soit à l'arrêt. Quand ça s'est passé, on a promis au médecin de faire tout le nécessaire et ils m'ont fait une échographie. Dans cette échographie, ils ont fait des voies biliaires de tout mon estomac, de tout mon abdomen. Et quand ils sont arrivés aux voies biliaires, elles étaient dilatées. Donc il y avait un bouchon, ce qui expliquait l'ictère hépatique. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas ce que Dieu me transmettait déjà là. Mais à partir de ce moment-là, j'avais compris que mon chemin était légèrement différé de ce que moi j'imaginais pour ma vie. Donc, quand le médecin m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il voulait me garder absolument à l'hôpital. Et j'ai dit non, nous avons pris la décision de rentrer en Suisse et on leur a promis que dès que je rentrais, j'étais hospitalisé à Lausanne. Et c'est ce qu'on a fait. Et je crois que déjà là, Dieu était déjà là en me montrant que j'allais obéir à des gens, j'allais obéir à des hommes et à des femmes. Arrivé à Lausanne, ça a été légèrement plus dur. Je me suis retrouvé aux urgences avec une des incertitudes de ma vie. Je ne comprenais pas ce qui arrivait, pourquoi c'était si jaune, pourquoi ci, pourquoi ça. Et j'ai été hospitalisé. Et quand je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôpital, ma chambre d'hôtel, comme je l'appelais à l'époque, qui a vite changé de nom d'ailleurs parce que c'était plutôt une chambre d'hôpital qu'une chambre d'hôtel, j'étais tout seul. Et là, Dieu parla. Dieu m'a parlé à ce moment-là, il me dit, écoute, le chemin que tu vas suivre va être dur. Et il va être très dur. Et il va être très, très dur. Et à partir de ce moment-là, je comprenais que ma vie avait changé radicalement. Parce qu'à partir de là, je comprenais que je n'allais pas sortir de l'hôpital en trois jours. Et j'ai dû admettre que j'étais un être humain, que j'étais quelqu'un comme tout le monde, avec ses forces, avec ses faiblesses. Mais j'étais sûr et certain que, à ce moment-là, on pouvait faire un trou dans mon ventre, enlever ce qui n'allait pas, et je pouvais reprendre ma vie. Mais ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Mon imagination a été perturbée à ce moment-là. Et pendant des jours, des heures durant, parce que des nuits, on dort très mal à l'hôpital, j'ai cogité, j'étais derrière, j'étais devant, j'étais au-dessus. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi, comment. Et il me montra une vision toute simple. Et cette vision, c'était simple, c'était un chemin avec beaucoup de cailloux. avec deux grosses montagnes, deux énormes montagnes que je pouvais pas ni escalader, ni monter par-dessus, ni aller par-dessous. Mais par contre, il m'a montré un nuage au milieu, entre les deux, un énorme nuage, et un petit trou juste en bas. Et je me suis retrouvé devant cette vision-là, en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Moi qui avais un travail intéressant, moi qui avais... Ouais, il faut que je bosse, quoi. Il fallait que... Je peux pas rester comme ça dans cette chambre d'hôpital. Et le Seigneur me confirma, et là j'ai pleuré en disant, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, je me suis retrouvé devant ma vision. Et les médecins sont venus 8 jours plus tard pour me dire qu'ils avaient découvert que j'avais un cancer des voies biliaires, donc un cholangiocarcinome. C'est un cancer très rare. On est 15 à l'avoir, la même pathologie sur toute la Suisse, et qu'il n'y a aucun traitement qui réagit à cette maladie. Alors, ma vie a changé radicalement. Ma vie a changé totalement. Totalement dans le sens au niveau physique, oui, mais aussi au niveau psychologique et spirituel. Moi, j'ai toujours cru que ma vie spirituelle allait avec ma vie professionnelle, allait avec ma vie de tous les jours, ce qui aurait été logique. Mais là, c'est un changement radical. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé dans cette situation et que je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre, quand Mimvia venait, elle était là à côté de moi, elle me dit « Allez, courage !» Ça va passer, mais ça ne l'a pas passé. Et elle me dit, écoute, j'ai reçu beaucoup de choses quand tu es à l'hôpital et moi à la maison. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu es prêt à partir? Je lui ai répondu, non, pas à ce moment-là en tout cas. Je n'étais pas prêt du tout. Mais ça m'a ouvert les yeux sur ma vie temporelle et puis ma vie spirituelle. Et je me suis retrouvé au milieu entre les deux. Et plus tard... Dans toujours cette chambre d'hôtel, quand les médecins nous ont annoncé ce que j'avais, ce diagnostic, là j'ai pris la plus grande batte de baseball sur la figure, et là je me suis retrouvé vraiment assis, et j'ai dû me dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais voilà, j'en suis là. Et je crois que c'est 2 ou 3 jours après, quand vous l'aviez su, mais il y a une sœur parmi nous qui m'avait envoyé le psaume 23, le verset 4, qui nous dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Je n'y risquerai rien. Je suis avec toi. Mon bâton et ma houlette te rassurent. » Je dis « Ok, la vallée de l'ombre de la mort, je l'avais comprise, puisque ma vie avait changé radicalement et que c'est un cancer rare. » Mais de savoir et d'expérimenter que Dieu était là, dans cette situation-là, dans cela avec moi, je ne l'avais jamais vécu auparavant. Parce que quand on va bien, Seigneur, tout va bien. Ça, il n'y a pas de problème. Je bosse super, j'ai ci, j'ai ça, je fais, je cours. Et là, je me suis retrouvé avec un frein à main tiré par le Seigneur et à l'arrêt total et brutal. Et j'ai expérimenté à travers ce tunnel ce que ça veut dire la vallée de l'ombre de la mort. Et là, on m'a dit, voilà, monsieur Gilbert, dans votre cas, nous allons faire la chimiothérapie. Et j'ai commencé, et je suis rentré dans mon tunnel, dans ce tunnel, c'est pas le mien, c'est ce tunnel. Et j'ai commencé la chimio. Et là, ça a été très dur, parce que je comprenais encore moins de ce qui m'arrivait, j'étais très fatigué. J'étais épuisé de tous les traitements que je recevais. Mais le Seigneur m'a montré dans cette vision que son doigt était dans mon tunnel et qu'il n'allait jamais me lâcher. Et je me suis précipité, je me suis accroché à ce bâton. Et c'est pour ça que je suis encore là et que je tiens aujourd'hui. Parce que je ne l'ai pas lâché, je ne veux pas le lâcher. Ce qui m'amène au deuxième point. Le deuxième point, j'ai retenu... Les dernières prédications depuis le mois de janvier. Alors je sais que la plupart d'entre nous, on en a oublié les 3/4, mais j'ai gardé des points. Et ces points, ils sont comme ça. Avant d'y arriver à ces points-là, je vais quand même vous dire que Dans ce chemin qui était difficile, qu'on s'est accroché au Seigneur, j'ai dû accepter certaines choses et en apprendre d'autres. J'ai dû apprendre à accepter. À accepter que la maladie soit à l'intérieur de moi. Ce qui n'était pas inné, ce qui n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. Et il m'a fallu des semaines, mais beaucoup de semaines pour dire, bon ben, je suis malade, je ne peux plus travailler, je ne pourrai plus travailler, car ma vie a changé. Ce qui veut dire que tout ce qui était important pour moi, ou plutôt important et vital pour moi, ne l'était plus. Et ça, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué dans le sens où, pour moi, c'était vital. Pour moi, c'était très important, mon travail. Je faisais quelque chose d'important pour Dieu. C'était logique. Mais je crois que Dieu avait encore quelque chose de plus important à montrer. C'est sa main, sa vie avec nous. Et cette partie-là, je l'ai expérimentée à l'hôpital. Tout seul dans ma chambre pendant les nuits, quand je n'arrivais pas à dormir, quand les petits boutons me grattaient le dos et que je me passais mon temps à me gratter sur les coussins de l'hôpital. « Seigneur, viens, je sais plus quoi faire. » Et je tournais. Et là, le Seigneur parlait, me montrait plein de choses, dont ce psaume 23, depuis A à Z. Je l'ai relu et relu jusqu'à ce que je l'ai imprégné à l'intérieur de moi. J'ai dû accepter aussi que j'étais un être humain, que j'avais des limites et que Dieu en avait fixé les limites et que Dieu était souverain et que c'est lui qui allait faire ce qu'il voulait de ma vie. Et ça non plus, c'est pas inné. C'est pas facile à dire, Seigneur, tiens, prends ma vie, fais ce que tu veux. Et lui va dire, comme le jeune homme riche dans les paraboles, va dire, ben écoute, tu laisses tout tomber de côté et puis viens et suis-moi. Oh, facile de dire, viens et suis-moi, oui. Mais c'est facile de dire oui quand tout le monde tout va bien. Oui, Seigneur, j'arrive, je cours, pas de problème. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on fait toujours ce que nous voulons. Mais là, quand on se retrouve dans la situation où je me suis retrouvé à ce moment-là, c'est que je n'avais pas le choix, ou je ne me suis pas donné le choix. J'ai dit, Seigneur, je te suis, oui, je laisse tout tomber. Et j'ai dû apprendre à lâcher prise. J'ai dû apprendre à lâcher mon travail. Et j'ai mis des semaines pour le lâcher, je peux vous dire. La dernière fois que j'étais à l'hôpital avec Milia, c'était « Mais je vais pouvoir retravailler, hein. Tu étais, je veux retravailler, est-ce qu'il y a une possibilité ?» Et les infirmières, avec un doigté, avec un tact incroyable, me disaient « Non, M. Gilbert, vous ne travaillerez plus, c'est pas possible, pas dans cet état-là. Vous avez besoin de vivre quelque chose et d'avoir au moins une fois autant ce temps-là en repos. » Comment voulez-vous que ça soit aménagé dans une entreprise? C'est juste impossible. Et quand j'ai dû admettre toutes ces choses-là, je me suis assis devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, ben voilà, effectivement, ben ma vie, je te la remets entre tes mains. Je la remets vraiment entre tes mains. Mais ça a été dur. Vous vous rendez pas compte ce que c'est difficile de réformer son propre cerveau, sa propre volonté, et de dire, Seigneur, tiens, voilà ma vie. Ma vie a été chamboulée, ok, mais Dieu a fait de grandes choses quand même. Il en a fait de pas mal. Et au début, je ne les voyais pas parce que, non pas que je ne voulais pas les voir, parce que les circonstances, les choses que je vivais me les empêchaient de les voir. Et je vais revenir à ces prédications qui sont assez importantes dans tout ce que j'ai vécu parce que j'ai été rejoint par plusieurs. Et la première, c'était Anne-France et Pierre, c'était au mois de janvier. Et ils avaient passé 4 photos. Dans ces photos-là, je m'y suis retrouvé pas dans la 4e, mais jusqu'à la 3e. La première, c'était un arbre, et ça je le vois encore, cet arbre dans la neige, avec le brouillard. Et c'est là où j'ai dit à Milvia, mais c'est ça, le tunnel, le brouillard, la neige, je sais que Dieu est au bout, il y a quelque chose dans mon chemin, il y a mon bâton à quoi je suis accroché, mais je ne vois rien, j'avance quand même, je suis accroché, mais je vais. Et pendant tout ce temps-là, je me suis retrouvé dans la deuxième photo qui était le regard par terre. Je marchais bêtement, la tête par terre, sans regarder devant, mais juste en suivant. Je ne vais pas dire aveuglément le Seigneur, mais en tout cas, sans prêter attention à ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas, l'incompréhension me paralysait à ce point-là. Jusqu'au jour où Rosetta m'a renvoyé ce tome 23 et puis m'a dit « Prends courage, mon frère. Il faut vraiment que tu prennes courage parce que ton chemin est dur. » Et à partir de là, j'ai relevé la tête. Et en relevant la tête, je voyais cette photo-là qui était le ciel. Ça commençait à se dégager, ça commençait un peu à fondre. Et à partir de là, je sortais de mes 8 premières chimios. Et à partir de là, on m'a dit, Monsieur Gilbert, dans votre cas, nous n'avons plus rien à vous donner. Nous ne savons pas ce que nous allons vous donner comme traitement, car il n'y a rien qui réagit. On vous a donné la plus violente des chimiothérapies. Alors, quand j'ai entendu plus violent, j'ai dit, qu'est-ce que ça va être après, s'il y a encore plus violent? Et quand j'ai relevé la tête, j'ai dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je ne peux plus faire autrement et je ne me laisse pas le choix. Je te remets ma vie parce que mon corps se désagrège petit à petit. Je ne sais pas comment, mais ça se fait. Et à partir de là, cette nuit, j'ai levé la tête et j'ai dit, Seigneur, tu es au ciel, tu es mon Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à marcher vraiment avec lui. J'ai accepté que j'étais malade. J'ai lâché prise de mon travail. J'ai lâché tout ce qui était, on va dire, important pour moi. Tout ce qui était... Je me sentais irremplaçable dans cette société. Mon travail était presque ma vie, quelque part. J'arrive pas à exprimer, mais ma vie était là, au travail et à la maison. Mais Jésus était un peu au-dessus de tout ça. Et je venais le chercher quand j'en avais besoin, et quand j'en avais pas besoin, je le laissais de côté. Et à partir de là, je me suis retrouvé dans cette troisième photo où ça se dégage. Et quand ça se dégageait, c'était simple, j'avais plus que de la chimio palliative. C'est-à-dire que mon chemin était plus tranquille, je vais dire ça comme ça. Mais faut pas oublier que ces chimiothérapies, c'est des produits hautement toxiques qu'on reçoit dans notre corps, que c'est des choses qui ne sont pas habituelles et que nos corps réagissent. Et je peux vous dire que pour ceux qui sont venus me dire bonjour pendant ces 8 premières chimios, j'étais vraiment très, très fatigué. J'étais vraiment au tapis sans pouvoir venir louer Dieu avec vous et c'était compliqué pour nous. Pourtant, c'était vital. Ça devenait vital. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que la quatrième photo était le ciel complètement dégagé, je n'y étais pas encore, mais c'était le chemin à atteindre. Je monte jusque-là. Et ça m'a fait tellement du bien de savoir que Dieu parlait à travers des témoignages, à travers des prédications. Et là, j'ai dû me poser la question, qu'est-ce que tu as fait de toutes les autres prédications que tu as entendues? Parce que finalement, Dieu parle à travers tout cela. Dieu parle à travers tout ce que je vis, tout ce que nous vivons, chacun. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter vraiment les prédications et à prendre ce qui était pour moi dans ces prédications. Ce qui m'amène revient toujours à ce psaume 23. Je suis toujours revenu à ce psaume 23. Parce que pendant ces périodes difficiles, j'ai eu des moments de calme, j'ai eu des verts pâturages où j'ai pu, entre guillemets, me reposer. Je sais que le Saint-Esprit est venu, je sais que Dieu a parlé. Donc les eaux paisibles, je les ai vécues, mais ça avait un sens. Là, ce jour-là, ça avait un sens, parce que tout simplement, je le vivais. Je vivais ce psaume 23, d'un bout à l'autre. Et on arrive à la deuxième prédication, c'est celle de Marc, mon joueur de foot préféré. Quand j'ai gardé deux points, c'était dans sa conclusion, c'est la culture de la mort à soi-même et de la culture de rester avec Dieu, de garder cet amour avec Dieu. Et c'était tellement vrai. Après toute cette période, j'ai fini par mourir à moi-même, mais surtout de l'admettre que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas garder tout ce que j'avais gardé qui était vital. Et cette culture, cette mort à soi-même, je me suis revu en voyant que Quand j'ai lâché mon travail, je disais, je suis irremplaçable. Pour moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis le seul chauffeur, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, toute cette chose-là, ben, je suis mort à moi-même. J'ai dit, bon, ben, Seigneur, ben, encore un bout, tiens, je lâche, je viens vers toi. Je fais comme le jeune homme riche, je donne. Et je l'ai fait, parce que j'avais envie de servir mon Dieu, parce que je n'avais pas le choix, de toute façon. Je ne me suis pas laissé le choix. Et en lâchant cette partie-là, je me suis accroché tout de suite au Seigneur. Et en demandant, mais qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi je suis comme ça? Mais par contre, montre-moi ce que cette maladie impacte l'Église, impacte ma vie, impacte les autres. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma vie, quoi? Et cette partie-là était un peu plus compliquée. Parce que tout simplement, il faut lâcher de nouveau encore des morceaux. Et là, ça se passe au niveau de la pensée. Ça se passe à tout ce que j'ai appris en tant que chrétien depuis une trentaine d'années. Et là, il y a des choses que j'ai dû lâcher. Il y a des choses que j'avais apprises qui n'étaient pas bonnes, que j'ai dû lâcher, que j'ai laissé tomber. Et tout cela, ça a été cette culture. Je cultive cet amour avec Dieu, cette relation. Alors, je suis sûr et certain qu'on peut se dire que c'est facile, Benoît. Toi, tu as le temps. Nous, on travaille. Mais dans ce temps-là de travail, je peux vous dire, j'étais chauffeur-livreur pendant 18 ans. Je roulais. Et quand je roulais, je priais. Quand je roulais, je demandais au Seigneur, pour qui tu veux que je prie? Je vais à Genève, donc j'ai du temps. Il y aura bien un bouchon sur la route, donc je peux prier pour quelqu'un. Et c'était ma vie, ça. Ça a toujours été ma vie quand je travaillais. Et j'ai toujours pris du temps. Et j'ai prié pour que ce n'ait, même sans le savoir. J'ai prié pour chacun d'entre vous parce que je vous aime, tout simplement. Et quand j'étais chauffeur-livreur, souvent je me disais, Seigneur, ben, je peux te servir même en roulant. Alors j'ai compris que quand j'ai lâché le travail, j'ai dit, ben, je ne roule plus, mais par contre je peux prendre mon temps maintenant. Alors apprends-moi à prier, apprends-moi pour qui tu veux que je prie, pourquoi, pour quel sens. Alors des sujets de prière, je pense qu'il y en a une centaine. Et qu'on ne va pas les reprendre, mais seulement, il y en a beaucoup pour lesquels j'ai prié et que j'ai à cœur. Et à partir de là, ben, j'avais compris que Dieu faisait quelque chose avec moi. La troisième, c'est la prédication de Roland sur la sanctification. Quand on meurt à soi-même, ben, on se sanctifie. Je fais un peu tu me dis jusqu'au bout. Voilà, tout à fait. Et dans cette prédication, vous en souvenez, c'était sur la sanctification. Il avait dit tout simplement, enfin, il avait dit, il avait pris le texte dans la parole où il nous a dit tout simplement qu'il fallait se couper la main, qu'il fallait s'arracher l'œil et se couper le pied. Je crois que c'est un fait marquant, mais c'était un peu, aujourd'hui, pour moi, ça a du sens. Ça a du sens, ce passage-là. Parce que tout simplement, Dieu m'a mis dans une situation où je peux y réfléchir. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais oui, voilà, se séparer d'eux. Et je venais de me séparer de mon addiction de la télévision, je me séparais de mes addictions, de toutes mes pensées, de films et d'autres, qui ne servaient à rien du tout. Ce qui veut dire que je me suis fait un petit tableau. En disant, fais attention quand même à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu vas faire. Alors évidemment, ce que j'aimais, c'est toutes mes grilles de sudoku. Il y a beaucoup de choses que j'aimais faire pour que ma mémoire reste en alerte. Mais il y en a d'autres qui étaient moins bonnes. Ne rien faire, la paresse, ça faisait partie de ce que je faisais puisque j'étais malade, je suis malade et que je ne pouvais rien faire à ce moment-là. Et la direction que j'allais. Et la direction que j'ai prise, c'est de suivre Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et je ne me le suis pas laissé une autre. Et cette direction-là, je crois que ça a été la meilleure. Parce qu'à ce moment-là, au moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ben, Seigneur, voilà. Je suis prêt. Je suis prêt à rester sur la terre, mais je suis prêt à partir aussi. Je suis prêt à tout lâcher. Je suis prêt à guérir, je suis prêt à vivre tout ce que tu veux, mais je suis prêt à rester sur la terre si tu le veux, ou alors je suis prêt aussi à partir. Et ça a été un chemin de quelques semaines quand même. Ça ne se fait pas en 5 minutes, se préparer à partir. J'ai dû le faire parce que je sentais mon corps qui malgré tout tombe en morceaux quelque part à l'intérieur de mon abdomen. Et en parlant avec Milvia, on revient souvent sur cette partie-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que dans ma vie, un jour ou l'autre, je vais de toute façon, on partira, mais juste que moi, c'est un peu prématuré à mon goût. Et je suis prêt, sincèrement, je suis prêt. Ce qui m'amène à la quatrième prédication, c'est Catherine Lambert qui parlait de la maison verte et la maison rouge. Ça aussi, ça m'a vraiment parlé. Parce que la maison verte, c'était ma vie, c'est ma vie avec tout ce qu'il y avait avant. Et la maison rouge, c'est celle du Seigneur, elles sont côte à côte et les portes sont ouvertes. Alors cette image, ça m'est resté. Ça m'est resté parce que quand je vais vers le Seigneur, pendant toute cette période-là, j'ai toujours été retiré en arrière en disant « Oui, mais attends, il y a ton travail, il y a ta voiture, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de choses qui sont comme ça. » Et je revenais en arrière. Et un jour, j'ai dit « Seigneur, comment faire pour mettre en pratique cette prédication et en tout cas, comment se décrocher de ce crochet qui était dans cette maison verte pour pouvoir rester dans ta maison ?» Parce que mon but, c'est ça, je veux rester avec toi. Et il me regarde, le Seigneur m'a montré une chose toute simple. Il faudra que ce soit toi qui le fasse cette fois-ci. Donc j'ai dû prendre mon courage à deux mains et de dire, bah, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Je suis là, il est 10h du matin, je viens de me lever, mon corps est complètement naze et ma tête va bien, mais je ne sais pas quoi faire. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller marcher parce que tout simplement, ça m'a évité de regarder la télé. Ça m'a évité de penser à des choses qui ne servent à rien dans ma vie. Il a fallu que j'aille souvent me promener pour ventiler tout ça. Et ça m'a permis aussi de décrocher le dernier crochet qui me liait dans cette maison verte avec mon travail. Et j'ai été leur dire bonjour et puis j'étais fermé la porte. Du bureau du directeur, et je lui ai dit, écoute, désolé, mais je ne reviendrai pas travailler ici, je ne reviendrai plus. Il m'a dit, mais non, tu vas guérir, écoute, les médecins, on est en Suisse, quoi. On n'est pas au fin fond du monde, on a la brousse. Je lui ai dit, désolé, non, ce n'est pas ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas ce qui est prévu dans mon programme. Et mon directeur me dit, écoute, sincèrement, je garde ta place. Ah, il était gentil, mais je garde ta place. Mais je lui dis, non, garde pas ma place, trouve-toi un chauffeur, un nouveau chauffeur. Je peux lui donner toutes les astuces si tu veux, mais trouve-toi un chauffeur, fais quelque chose, mais ne m'attends pas, ne m'attends plus. Il ne faut pas m'attendre. Et là, j'ai compris que je venais de décrocher dans ma maison verte. Le plus gros crochet, c'était le lien du travail. Comme disait Roland, ben, j'ai enlevé une vieille casserole, j'ai enlevé un boulet qui me traînait pendant tous ces mois. Et à partir de là, je me suis senti libéré de ce travail. Libéré sincèrement et vraiment de ce travail. Parce que j'ai fait l'effort d'aller leur dire que je ne reviendrai plus. Et la partie après, c'est d'aller dans le bureau et de dire, mes collègues, chers collègues, ben, ma vie est comptée, mes jours sont comptés, mes mois sont comptés, ma vie va s'arrêter un jour. Mais non, mais bien sûr que non, Benoît, mais non, t'es croyant, tu peux pas mourir. Tu peux pas, non, tu peux pas. Pour eux, c'était impensable. Mais je leur ai dit, mais si, c'est la réalité. Ils n'ont pas de traitement pour moi. Vous êtes conscient de ce que je vous raconte ou pas? Et visiblement, ils ne l'étaient pas, mais là, ils l'ont été. Oui, mais Benoît, mais écoute, on est en Suisse, quoi. On va bien trouver, ils vont bien trouver un traitement, ils vont bien trouver avec toute la technologie qu'on a. J'ai dit, mais écoute, on est 15 sur la Suisse romande à avoir la même pathologie. Et tous ces gens-là décèdent l'un après les autres et il n'y a pas de traitement. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, il faut. Prenez-en. Oui, il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête. Et un de mes meilleurs collègues est sorti du bureau en pleurant. Et puis quand je l'ai retrouvé, il me dit « Non, mais t'es sérieux de ce que tu viens de dire ?» Je dis « Non, mais je suis sérieux. Je ne reviendrai pas travailler. Je ne peux pas travailler. Et tu dois te préparer à ce plan, à ce deuxième plan, à ce que je parte. » Mais Benoît, ça fait 18 ans qu'on bosse ensemble, tu te rends compte de ce que tu dis ? Oui, je me rends compte de ce que je dis, et c'est la réalité. Mais toi, tu dois te préparer aussi. Prépare-toi à partir à la retraite déjà, mais prépare-toi aussi à ce que je ne sois plus là. Et puis il m'a dit, ça va être dur. Ah, ça va être dur pour tout le monde, mais préparez-vous. Et quand j'ai décroché ce crochet-là, j'en ai décroché un autre. Je me suis libéré de cette ambiance de travail, cette ambiance de il faut courir toujours, il faut faire, il faut. Et je me suis décroché de ça aussi. C'est les deux crochets, les deux plus importants que j'ai défaits. Et à partir de là, je me suis senti vraiment en paix. En paix, en train de me dire, voilà Seigneur, ma vie, elle est vraiment entre tes mains. De plus en plus d'ailleurs. Elle est en train de glisser de la terre à toi. Et là, je crois que j'ai compris ces choses-là. Quand je me suis défait toutes ces choses-là, j'ai commencé à vivre dans la maison rouge. J'ai commencé à vivre pleinement dans cette maison du Seigneur, pleinement dans dans cet appartement que Dieu a préparé pour moi. Parce que je me suis défait d'un certain nombre de choses. J'ai défait toutes ces choses que je n'ai plus besoin. Et j'ai dû quand même apprendre à vivre dans cette maison rouge pendant ce temps, dans ces temps de maladie. Et j'ai dû apprendre et à me méfier du regard que j'avais sur les autres, que j'avais sur moi-même, que j'avais sur le monde. Et c'est un autre crochet que j'ai dû décrocher de cette maison verte. Comment je regarde mes enfants actuellement, qui sont grands. Je suis grand-père, donc un petit garçon de 5 ans. Il est venu au monde, pas dans les conditions que j'aurais espérées, mais bon. Ma fille a vécu, ma vie s'en occupe très bien. Mais il a fallu que j'accepte que c'est un choix qu'elle a fait. Il a fallu que j'accepte que moi je ne l'aurais pas fait de cette façon-là, je n'aurais pas agi. Comment je regarde, comment je lui ai conseillé, toutes ces choses-là, j'ai dû décrocher. J'ai dû décrocher aussi la manière dont je me vois moi-même. Parce que pour moi, je suis irremplaçable, je suis toujours... je me lance un peu des fleurs, mais c'est une triste réalité. On est des êtres humains, et le cœur humain est un peu orgueilleux, est un peu... c'est surtout moi, quoi. Et j'ai dû décrocher toutes ces choses, je me suis défait de toutes ces choses. À partir de là, j'ai compris que ma vie était changée encore, et de plus en plus le cap s'éloignait de ma vie passée. Ce qui m'amène à la cinquième... prédication, c'est celle de Benjamin, qui parlait des biens temporels et des biens spirituels. Cette partie-là, est la plus difficile à lâcher. Les biens temporels sont problème, j'en ai déjà parlé, vous l'avez bien compris que je lâche tout. J'ai lâché prise sur beaucoup de choses. Mais il y en avait quand même un qui me tenait à cœur, c'est le projet que Dieu a formé dans mon cœur depuis une vingtaine d'années. Depuis 20 ans, j'avais l'idée de faire un atelier et puis d'avoir cet atelier pour apprendre à vivre avec Jésus, en parlant du Seigneur, en faisant quelque chose ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou ceux qui s'ennuient, ou ceux qui sont plus âgés, qui sont à la retraite, qui n'ont rien à faire, ou qui n'ont rien envie de faire, et qu'on puisse se retrouver autour d'un projet commun. Et j'ai obéi au Seigneur, l'atelier est complet, absolument complet. Toutes les machines sont là, il n'y a rien à acheter, il n'y a plus rien à faire. J'ai juste besoin d'un successeur. Et nous avons prié avec Milvia, on en a demandé un, et hier, j'ai eu rendez-vous avec un frère, et qui a été vraiment emballé de tout ce que je lui ai dit, de tout ça, mais il fallait que je le lâche aussi. C'était le bien le plus difficile à lâcher. Je peux vous dire que quand Dieu vous confie quelque chose, c'est compliqué à lui rendre. Mais seulement, en parlant avec Olivier, c'est comme si je lui donnais, je me délestais de cet atelier, et je suis en paix avec ça aussi. Et à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de biens temporels. Je suis accroché à plus rien. À plus rien du tout. Et je m'accroche par contre aux biens spirituels. je prie pour vous. Je demande à chaque frère, à chaque ancien, qu'est-ce que, sur quoi je peux prier? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin dans l'église? Allez, dis-moi, je veux savoir. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh ben, j'ai des sujets qui me viennent. Le centre de vie, entre autres, il y a toutes ces choses-là qui sont là, qui me tiennent à cœur, et pour lesquelles je prie. Le renouvellement des anciens et tout ça, je passe mon temps à ça. Toutes ces choses-là sont ces biens spirituels que Dieu m'a donnés. Et je m'y suis accroché. Et c'est à ça que je m'accroche. Aujourd'hui, c'est vrai que si je reviens à ce que je en regardant derrière, plutôt, on va dire ça comme ça, ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu avec Milvia, ça n'a pas été simple à comprendre le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, je le comprends. Je le comprends vraiment. Et j'arrive à la sixième prédication, c'est celle d'Andrea. Andrea nous a parlé sur l'au-delà. Et là, j'avais compris que j'étais confronté tous les jours à cet au-delà. Parce que finalement, quand on est malade, on a un cancer rare, vous ne savez pas quand votre temps est fini. Donc j'ai toujours dit à Milvia, ben, je profite du temps que Dieu me donne, il faut absolument que on profite de ces choses-là. Et en écoutant Andrea qui nous parlait de l'au-delà, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, écoute, je suis confronté à ça, quoi. Je suis confronté à la mort tous les jours, pratiquement. Parce que je sais que je m'endors ce soir, mais demain matin, je ne sais pas si je serai toujours là. Je sais qu'il y a des balises chez les médecins qui disent que je suis en phase 1, phase 2, phase 3, mais mon corps en dit une autre, ça va plus vite que ce qu'ils ne le disent. Je vous rappelle un petit, je vais vous lire, donner une information, c'est que la dernière fois que j'ai fait, je devais aller faire de la chimiothérapie, les médecins ont fait une prise de sang. Et tout de suite, quand je leur ai expliqué que j'avais des douleurs abdominales, que j'avais des douleurs qui n'étaient pas comme avant, qui n'étaient pires qu'avant, tout de suite, ils se sont affolés, ils ont fait faire venir la chef de clinique, et elle m'a dit, oula, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, bah, écoutez, voilà, j'ai mal au ventre, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Mais c'était pas des douleurs habituelles. J'ai vraiment mal au pancréas, j'ai vraiment mal aux intestins, il y a un truc qui joue pas. Alors elle a dit là, on valide rien du tout, on vous fout la paix pour Pâques. Et je n'ai pas eu de chimio, ça fait 4 semaines que je n'ai pas eu de chimiothérapie. Et il a fallu quand même que je leur dise qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que quoi. Et elle me dit, je ne sais pas, on ne sait pas, on n'a rien pour vous, toujours rien. Alors j'ai dit à Milvia, ben, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose à Pâques. Donc on a appelé ma maman et je lui ai dit, écoute, on va aller vivre quelque chose à trois, puisque tu es ma mère, Milvia est mon épouse, et allez, viens en Suisse, on va aller visiter la Suisse miniature, parce que j'ai besoin d'un chauffeur déjà, parce que tout seul, j'aurais pas pu le faire. Et on y est allé, et on en a profité. Et ces 3 jours-là, je vous assure que je suis sorti de mon univers carcéral médical. C'est la première fois où je sors. J'étais dans mon monde, j'étais vraiment dans un autre monde, j'étais vraiment bien, très bien même. Sauf que le soir, mon ventre me rappelait que c'était pas bien. Mais par contre, j'ai vraiment profité de ces moments. Il faisait beau au Tessin, c'était vraiment génial. J'ai vu ma mère sous un autre angle. Avec Milvia, on a beaucoup parlé, mais on a beaucoup vécu aussi. Et quand on est rentré le dimanche soir, c'était pas top, quoi. Mais le lundi matin, alors c'était pas top du tout. J'ai fini aux urgences à 5 heures le soir parce que j'avais des douleurs abdominales énormes. Et aux urgences, on m'a dit tout simplement qu'on m'a demandé quelle était la douleur, comment elle était, si ça. Et surtout, le problème, c'est que c'est toujours les mêmes questions, donc on a l'habitude d'y répondre. Mais cette fois-ci, la médecin m'a dit, mais non, je veux pas ce que vous répondez d'habitude. Je veux savoir où. Alors je lui ai pris ses mains et je lui ai montré où j'avais mal. Et j'ai eu un scanner à 11 heures le soir. Et puis là, à 2 heures du matin, on m'a dit, mais Il n'y a pas d'obstruction. Vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Vous avez juste les intestins qui sont enflammés et juste le coude qui va au rectum qui est vraiment très enflammé. Donc, on va vous bourrer de médicaments. Encore. Donc, on m'a mis une voie veineuse et on m'a bourré de morphine, on m'a bourré de médicaments. Et effectivement, ça a cassé la douleur. Ça n'a pas atténué, cassé la douleur. Et à partir de là, quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, voilà quoi, je comprends que le chemin... Et c'est là où j'ai reçu cet appel de témoigner. C'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment que je vous dise par là, par quoi on vit, par ce que l'on vit. Dans la prédication d'Andrea, il y avait des choses qui sont... où elle a été confrontée, et elle est toujours confrontée vu qu'elle est aumônière. Et ça m'a touché quand elle m'a dit ça la première fois qu'elle était aumônière, qu'elle assistait les gens qui partaient et qui restaient surtout. Mais moi, je dis à Andrea, je crois que je vis les deux, moi. Je m'assiste parce que je sens que, mais je peux m'assister aussi parce que Milvia reste. Et là, ça a été un grand coup de blues parce que tout simplement, c'est une part, c'est une chose qu'il faut admettre, qu'il faut être conscient, que je suis conscient que ma vie en est là. Et j'arrive au troisième point de mon témoignage. Oui, alors il ne va pas être très long, t'inquiète pas. Je t'avais prévenu, hein. Ce que Dieu a fait, en résumé, ce que Dieu a fait dans l'église, pour l'Église et dans l'Église à travers ce que je vis, la toute première chose qu'il a fait, c'est qu'il a resserré les liens de notre couple, Milvia et moi. La deuxième, il a resserré les liens entre mes enfants et moi. Et il a resserré les liens avec ma famille proche de la Belgique. Au niveau de l'Église de Cossonay, c'est simple, il a créé deux choses. Quand j'étais pas bien, Roland était venu à la maison et puis il nous avait dit tout simplement « Est-ce que vous avez un besoin ?» Moi, personnellement, j'en avais pas, mais Milvia en avait un très important. C'est que quand elle allait travailler toute la journée, elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise avec que je sois tout seul à la maison. Donc, Dieu a créé une permanence. Des frères se sont levés et sont venus me visiter. Et ça nous a fait du bien, pour elle surtout, parce qu'elle était à l'aise, et pour moi, parce que je pouvais sortir avec quelqu'un surtout. La deuxième chose qu'il a créée, en même temps, c'est un réseau de prières. Au départ, ça devait être une chaîne de prières, mais non, ça a été un réseau de prières. Il a aussi créé des liens très forts entre certains d'entre vous et nous, et avec moi surtout. Et j'ai découvert, par vous, des vrais amis. Mais alors des vrais amis sur qui on peut compter, même si on ne se connaît pas, je suis sûr qu'on peut compter. Donc ma conclusion, elle est toute simple. Et là, ça va être encore plus rapide. Oui, nous sommes une église accueillante. Et je parle de nous, je ne parle pas de vous, je parle de nous tous. Oui, nous sommes une église accueillante. Vous nous avez accueillis il y a 2 ans et demi. Oui, nous sommes une église nourrissante. Nous avons un pasteur extraordinaire qui apporte cette nourriture. Et oui, nous sommes une église priante, parce que la preuve, je suis encore debout. Et tout ça, pour revenir à Olivier Ray, c'est ça le centre de vie. C'est ça, pour moi, le centre de vie, c'est ça. C'est tout ce que nous faisons. Le bébé est prêt. Le bébé est prêt à accoucher, à venir. Il n'y a plus que le corps. C'est tout ce qui lui manque. Et à partir de là, je crois que vous vivrez des grandes choses. Voilà. Ça a été assez court.